Je vous invite à prendre vos Bibles pour nous promener un peu dans les Écritures saintes ce matin. Vous commencez par Josué au chapitre 5. Avant de lire la parole, je veux prier. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, tu as choisi de te révéler à travers l'histoire des hommes qui t'ont connu. Tu les as inspirés et poussés à écrire, Seigneur, ton histoire avec l'humanité. Et nous nous plongeons dedans pour y comprendre qui tu es. Et en comprenant qui tu es, accepter de changer notre manière d'être et de penser afin de te ressembler. Amen. Josué chapitre 5, on va lire les derniers versets du chapitre 5, c'est-à-dire les versets 13 jusqu'à 15. Et juste pour vous situer un peu le contexte, que vous compreniez où est-ce qu'on se trouve. Donc le peuple vient de rentrer dans la terre promise. Ils ont passé le Jourdain à pied sec. Les porteurs de l'Arche de l'Alliance se sont avancés au milieu du fleuve. Le niveau de l'eau a baissé. On a revécu un revival de la traversée de la mer Rouge, là, à pied sec. Ils ont même récupéré 12 pierres au fond du torrent pour bien se souvenir de cela. Ils se sont approchés de Jéricho. Ils se sont tous circoncis. Tous ceux qui ne l'avaient pas encore été, ils ont fait une Pâque. Ils sont tout boostés, tout prêts, chaud patate pour la conquête du pays promis. Et là, devant eux, la grande cité de Jéricho. D'accord ? Donc puis ils ont commencé à manger les fruits du pays, la manne a cessé de tomber, donc on est vraiment dans le tournant d'une page, et voilà, ils sont face à Jéricho. Je lis à partir du verset 13. Comme Josué se trouvait à Jéricho, il leva les yeux et regarda, et voici se tenait un homme face à lui, son épée nue à la main. Josué marche vers lui et dit « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» Il lui dit « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tombe face contre terre, se prosterne et lui dit « Qu'est-ce que mon Seigneur a dit à son serviteur. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. J'aime beaucoup ce passage, il me fait rire. Josué réfléchit en disant, voilà, est-ce que cet homme qui vient, il est dans mon camp ou est-ce qu'il est dans le camp de mon ennemi? Il pose la question ouvertement, fermement, et l'ange répond non. Je ne suis pas pour ton camp. Je ne suis pas pour le camp de l'ennemi, moi. Moi, je suis pour l'Éternel. On passe à un autre passage dans l'épître de Paul aux Corinthiens, la première. Première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 3. Je lis verset 1 jusqu'à 9. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des petits-enfants en Christ. Alors, dans votre tête, vous traduisez, hein, spirituel, ça veut dire mature, et charnel, ça veut dire immature. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne la pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Et en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, de la discorde, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine? Quand l'un dit « moi je suis de Paul » et l'autre « ah non, moi je suis d'Apollos », n'êtes-vous pas tout humain? Qu'est-ce qu'Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon le Seigneur, selon ce que le Seigneur, pardon, a donné à chacun. Moi, j'ai planté, Paul, Apollos a arrosé, mais c'est le Seigneur qui fait croître. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, et chacun recevra sa propre récompense selon ce propre labeur, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Une dernière lecture, je suppose que vous comprenez le parallèle avec le premier, puis une dernière lecture dans l'évangile de Luc, au chapitre 4. Luc, chapitre 4, verset 14. C'est la première prédication publique de Jésus, de toute sa vie de ministère de Jésus, à Nazareth. Jésus retourne en Galilée avec la puissance de l'Esprit. Et sa renommée se répand dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Première prédication à la maison. Et il entra, selon la coutume, dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre, trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Puis il roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit, les yeux de tous dans la synagogue était fixé sur lui. Alors, il se mit à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage, admiraient les paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et disaient « Mais ce n'est pas le fils de Joseph ?» Jésus leur dit certainement, vous me citerez ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même. » Tout ce qui s'est produit à Capharnaüm et que nous avons appris, fais-le ici, dans ta patrie. Il leur dit, en vérité, je vous le dis, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. C'est la vérité, je vous le dis. Il y avait beaucoup de veuves en Israël, au jour d'Élie, lorsque le ciel fut fermé pendant 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine. Mais cependant, Élie ne fut pas envoyé vers aucune d'elles. C'est vers une veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Et il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman, le Syrien. Et ils furent remplis de fureur dans la synagogue lorsqu'ils entendirent cela. Et ils se levèrent, le poussèrent dehors, le menèrent hors de la ville jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle la ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, s'en alla. Dans quel camp est Dieu? Dans quel camp est Dieu? Est-ce que Dieu y vote à gauche? Est-ce que Dieu y vote à droite? Dans les conflits qu'on a pu connaître, est-ce que Dieu il est d'accord avec moi ou est-ce qu'il est d'accord avec l'autre? Avec quelle dénomination Dieu s'entend-il le mieux? Avec quel courant d'église? Comment faire pour que Dieu soit de mon côté? Voilà des raisonnements tout humains que nous, on se pose. Josué voit un homme en armes arriver, tout baraqué. La question qui se pose, c'est « Est-ce que tu es avec moi ou contre moi ?» Et l'homme lui répond « Je suis ni l'un ni l'autre. Moi, je joue pour l'équipe de Dieu. Je joue pour l'équipe de Dieu. Et toi ?» Et Josué, tout de suite, est repris. Il tombe à genoux. Il réalise que oui, ce combat qu'il doit mener contre la ville de Jéricho, ce n'est pas un combat qu'il doit mener pour lui, ni même pour son peuple, mais au nom de Dieu. Paul reprend de la même manière l'église de Corinthe. Alors les gars, vous n'avez toujours pas compris l'église. Alors toi, tu dis que tu es de l'école de Paul. Parce que quoi? Tu as été baptisé par Paul? Parce que tu as fréquenté des églises implantées par Paul? Et toi, tu te dis de l'école d'Apollos? Mais le Christ est-il divisé? Paul est-il mort pour vous? Apollos a-t-il fait quelque chose qui fait que vous soyez des chrétiens différents des autres? Là encore, il pointe du doigt cette façon de penser à l'envers, où Dieu serait pour un camp plutôt que pour un autre. Doit-on se demander si Dieu est d'accord avec moi ou si je suis d'accord avec Dieu? Et le dernier texte que je vous ai fait lire dans l'évangile de Luc. Jésus rentre à la maison. Il arrive dans son petit bled paumé de Nazareth. D'accord ? Vauvert, il y a 80 ans, tout le monde se connaissait. Donc il revoit l'enfant du pays revenir. Oh, c'est Jésus ! Le petit qu'on voyait jouer dans les rues avec son papa, Joseph, le charpentier, enfin, tout le monde le connaît. Et voilà que Jésus redébarque, mais sauf qu'il arrive avec une réputation incroyable qui le précède, parce que voilà que de l'autre côté de la frontière, à Capharnaüm, de l'autre côté du lac, on a entendu ce qu'il a fait, des miracles, des guérisons, il a chassé des démons, enfin, c'est un prophète qui est né à Nazareth, s'il vous plaît. Il y a moyen que ça ait des retombées positives pour nous, non? Non? Voilà ce qui est sous-entendu dans cette petite phrase de l'évangile de Luc. N'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus anticipe la chose. Il anticipe la chose. Il reprend les Écritures qu'il vient de lire. L'histoire des prophètes. Lui qui vient de lire dans le rouleau du prophète Ésaïe, il dit « Regardez les Écritures. » Quand c'était la sécheresse et la famine en Israël, le prophète Élie a été envoyé vers une veuve, non pas une bonne juive, une veuve du pays de Sidon. Et Naaman le Syrien, le lépreux, a été sauvé, guéri de sa lèpre, plutôt que des enfants d'Israël. Alors, je ne peux pas vous expliquer pourquoi est-ce que Dieu a choisi des étrangers plutôt que des bons juifs. Mais ce qui paraît sûr, c'est que ces habitants de Nazareth, là encore, se sont trompés dans la question. La question n'était pas « est-ce que Dieu est dans notre camp ?» mais plutôt « sommes-nous dans le camp de Dieu ?» Jésus venait de prêcher quand même des mots forts. guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue. Et Jésus vient de leur dire, bon, vous savez, le Seigneur, il envoie ses prophètes, il envoie ses apôtres là où il le veut. Ah bon ? Comment, Seigneur, pouvons-nous être dans ton camp ? Comment ces paroles peuvent-elles s'appliquer pour nous ? Voilà une réflexion qu'ils auraient pu se faire. Au lieu de se mettre en colère, parce que Jésus sous-entendait que Dieu agit bien là où il veut, au point de vouloir le précipiter du haut d'une falaise. Les prétentions des gens. Souvent, lorsque nous avons des épreuves et des situations qui sont compliquées à gérer, le plus dur pour nous, ça va être de réfléchir le problème avec le regard de Dieu. Sortir peut-être de notre façon étroite de voir les choses en réfléchissant pourquoi est-ce que Dieu n'est pas dans mon camp. Quelque part, nous oublions qu'il y a une histoire plus grande que la nôtre. Oui, l'Évangile est une bonne nouvelle pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, parce que Dieu veut rentrer dans ta vie et t'apporter le salut. Mais l'Évangile, c'est aussi un train qui passe. Et que se passe-t-il si tu ne montes pas dans le train ? Le train va partir quand même. Il y a une histoire qui nous dépasse. Il y a des enjeux qui nous dépassent. Il y a la restauration du monde entier qui est à la clé. Ce n'est pas exclusivement la fin de mes souffrances à moi, même si la restauration du monde entier va mettre un terme à mes souffrances à moi. Mais derrière ça, il y a, derrière ma vie, derrière ma relation personnelle avec Jésus, il y a le projet de Dieu de restaurer le monde. Philippe nous a conduits dans une liturgie qui nous amène à nous souvenir que Christ est le souverain des rois de la terre. Le souverain des rois de la terre. Alors, la question est-elle de se poser si Jésus est dans mon équipe ou si moi, je fais partie de l'équipe de Jésus. D'ailleurs, si vous me permettez une dernière lecture, je crois que j'ai mis un marque-page. Dans l'évangile de Matthieu. Évangile de Matthieu, chapitre 18. C'est un passage qui parle des disputes et des conflits au sein de l'Église. Titre, verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la parole de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen, un péager. Je vous le dis, tout ce que vous lirez sur terre sera lié dans le ciel. Ce que vous délirez sur terre sera délié dans le ciel. En vérité, je vous le dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je m'arrête là. Si deux ou trois sont rassemblés en mon nom, c'est pas deux ou trois qui se rassemblent pour que Jésus soit dans leur équipe. Ah, on va se rassembler pour un projet à nous, et on va se mettre à deux ou trois, et on va prier, parce que si on est deux ou trois, Alors Jésus va être avec nous dans notre projet. Et non, c'est l'inverse. Là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, là où deux ou trois sont rassemblés pour jouer dans mon équipe, pour s'impliquer dans mon projet, ben je suis là. Ça paraît logique. Dans un conflit, dans une dispute, dans un désaccord entre des chrétiens, ça arrive rarement, ça arrive. Mais je blague. Allons-nous chercher à montrer avec force d'argument que Jésus est dans notre camp ? Ou allons-nous chercher à faire gagner Jésus ? Est-ce que le plus important, c'est mon projet ? Ou le projet global de Jésus. Est-ce que le plus important, c'est ma place dans cette église ou l'église que Jésus construit ? Construction à laquelle je suis appelé à collaborer, à participer. Paul le dit dans le passage que nous avons lu. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. J'aime bien ce « avec ». Voilà. Collaborateur de Dieu. Ouvrir avec Dieu. Réfléchir dans nos vies à être dans le camp de Jésus et pas à chercher à ce que Jésus soit dans notre camp. Bon, est-ce que ça vous interdit du coup de demander de l'aide, de demander du secours, du soutien dans les situations personnelles que vous traversez ? Non, pas du tout. Pas du tout. Il est votre Dieu, il est votre ami, il est votre rocher, votre soutien, votre réconfort. Simplement, peut-être ne jamais oublier que Dieu a un grand projet pour ce monde, dans l'histoire du monde, et que rien ne viendra l'en détourner. Il pourra modifier ce projet pour vous, mais jamais l'abandonner, jamais le contredire, jamais faire quelque chose qui irait à l'encontre de ce projet. Voilà, nous faisons partie de la famille de Dieu, du royaume de Dieu, de l'équipe de Dieu. Lorsque nous devenons chrétiens, lorsque nous naissons dans l'Église, nous naissons dans un camp. Ce n'est pas le nôtre, c'est celui de Jésus. Et bien des choses parfois peuvent être réglées si simplement les chrétiens se disaient « bon, comment est-ce qu'on va faire gagner le camp de Jésus ? Comment est-ce qu'on va faire gagner le camp de Jésus ? Plutôt que de vouloir faire gagner son propre camp. Et vous verrez que très souvent, ce n'est pas l'objectif qui compte. Ah, est-ce que l'Église va s'engager ici ? Ou est-ce que l'Église va s'engager là ? Ça va beaucoup plus être sur les moyens qu'on se donne. Comment est-ce qu'on discute les uns avec les autres ? Comment est-ce qu'on passe du temps à se connaître les uns avec les autres ? Comment est-ce qu'on dialogue ? Comment est-ce qu'on vit nos désaccords ? Comme je l'avais partagé, il ne s'agit pas de savoir dans une église si toute une église a réussi à décider d'être pro les vaccins ou anti-vaccins ou pro ceci ou pro cela. La force et la maturité d'une église, celle à laquelle Paul aspire, sera beaucoup plus fondée dans la capacité à vivre nos différences, nos désaccords, d'une manière féconde, respectueuse, paisible, profonde, qui honore le Christ et qui le glorifie. Faire gagner l'équipe de Jésus. Se souvenir que, au-delà de ce que je vis, moi, il y a le grand projet de Jésus. Dans quel camp es-tu ? Pour nous ou contre nous ? Non, je suis dans le camp de l'Éternel. La prochaine fois qu'on vous demande la question pour qui vous allez voter, pour Chaque fois qu'on vous pose la question, si vous êtes plutôt d'accord avec ceci ou plutôt d'accord sur ça, vous répondez non, je suis dans le camp de l'Éternel. Mais quelque part, il y a de l'idée.